Les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 15h à Bamako, 16h à N'Djamena. Bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Congo-Brazzaville, le FMI, le Fonds monétaire international, a imposé des exigences de gouvernance aux autorités de Brazzaville après la conclusion positive la veille d'une mission sur un projet de programme entre le Fonds et ce pays pétrolier d'Afrique centrale. C'est ce qu'a affirmé ce jeudi la directrice du FMI, Christine Lagarde, lors d'une conférence de presse à l'occasion des réunions du printemps du FMI. Le projet sera ensuite soumis au conseil d'administration et c'est à l'issue du conseil d'administration que l'on saura exactement quels sont les financements et quelles sont les conditions associées à ce programme, a-t-elle souligné. Nous avons des exigences en matière de gouvernance qui devront être mises en place très vite avec l'approbation du conseil et qui nous paraissent de nature à garantir une bonne utilisation des finances publiques et la bonne réalisation des objectifs du programme, a ajouté Christine Lagarde. Après avoir masqué une partie de sa dette, le Congo-Brazzaville avait repris des négociations avec le Fonds monétaire international pour essayer de relancer l'économie d'un pays victime de la chute des prix du pétrole, comme d'autres pays d'Afrique centrale. En RDC voisine, le président de la FECOFA, la Fédération congolaise de football, Constant Omari, est attendu au parquet de Kinshasa ce jeudi dans le cadre des poursuites engagées contre lui et trois dirigeants sportifs, notamment pour détournement de deniers publics. Monsieur Omari a été relâché mercredi soir après avoir été placé en garde à vue mardi avec ses trois co-accusés qui, eux, restent en détention. Au Tchad, appel des évêques de la conférence épiscopale nationale ce jeudi en faveur de l'adoption de la nouvelle constitution par référendum plutôt que par voie parlementaire. Le changement de constitution doit se faire dans le respect de la charte fondamentale actuelle qui stipule que la révision de la constitution est adoptée par référendum, souligne un communiqué des évêques, notant que le projet, et je cite, ne reçoit pas l'adhésion de l'ensemble des citoyens. Fin de citation. L'adoption du nouveau texte constitutionnel est prévue fin avril à l'Assemblée nationale où les partis de la mouvance présidentielle ont une majorité écrasante, l'opposition ne disposant que de 33 sièges sur 170. Le président Idriss Déby, âgé de 65 ans et au pouvoir depuis 1990, en est à son cinquième mandat qui s'achèvera le 21 août 2021. Si la nouvelle constitution est adoptée, le chef de l'État pourrait se représenter en 2021 et effectuer théoriquement deux autres mandats de 6 ans jusqu'en 2033.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burundi, l'opposition multiplie les initiatives pour bloquer le référendum censé modifier la constitution. Un mémorandum a été adressé aux instances internationales comme l'Union africaine et l'ONU. Mais pour le gouvernement burundais, ce mémorandum de l'opposition ne dit pas la vérité. Terence Ntahiraja est le porte-parole du ministre burundais de l'Intérieur.
Le premier objectif, c'est d'arrêter le processus référendaire en cours. Nul n'ignore que le processus de révision d'une constitution relève de la souveraineté d'un pays et de son peuple. Deuxièmement, ils disent le mensonge comme quoi les acquis de paix, de sécurité, de cohésion sociale seraient mis en épreuve. Ça, c'est faux et archi faux. De ce quoi, ils ont dit que son projet de constitution est de nature à enterrer définitivement l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. C'est vraiment un propos honteux, à mon avis, parce que si je vous cite quelques articles du projet de constitution relatif à l'accord d'Arusha, vous serez étonné. Et enfin, ils disent que le projet de constitution va mettre fin définitivement aux droits de minorité politique et éthique. C'est dommage.
Terence Ntahiraja, porte-parole du ministre burundais de l'Intérieur. Au Sénégal, la police a dispersé à coups de gaz lacrymogène ce jeudi à Dakar des manifestants qui protestaient contre le vote d'une révision du code électoral moins d'un an avant la présidentielle. Plusieurs opposants ont été interpellés par la suite, dont l'ancien ministre Idrissa Seck et le président du mouvement Agir, Thierno Bokoum, à l'Assemblée nationale. Les députés ont entamé aujourd'hui l'examen d'un projet de loi imposant un parrainage à tous les candidats de la présidentielle, dont le premier tour est prévu le 24 février 2019. Et pour terminer, à Cuba, Miguel Díaz-Canel, désigné mercredi comme candidat unique à la succession du président Raúl Castro, a été élu par les députés aujourd'hui, comme prévu, pour un mandat renouvelable de 5 ans. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Eric.